À propos des révolutions et des faiseurs de guerre, enfin, à propos des révolutions, j'ai un livre qui s'appelle Bête, homme et Dieu, écrit par Ferdinand Ossendowski. À travers la Mongolie interdite, 1920-1921. Krasnoïarsk, hiver 1920, un homme vient d'apprendre qu'on l'a dénoncé au rouge et que le peloton d'exécution l'attend. Il prend son fusil, fourre quelques cartouches dans la poche de sa pelisse, sort dans le froid glacial et gagne la forêt. Commence alors une course-poursuite dont il ne sortira vivant, il le sait, que s'il ose l'impossible. Gagner à pied l'Inde anglaise à travers l'immensité sibérienne, puis les passes de Mongolie, puis le désert de Gobi, puis le plateau tibétain, puis l'Himalaya. L'itinéraire qu'il suivra sera quelque peu différent, et si possible plus sidérant encore. Mais ce que le livre révèle, et que le lecteur n'attend pas, c'est, parallèle au voyage réel, une étrange odyssée intérieure qui nous introduit au cœur des mystères de l'Asie millénaire. Car Ossendowski, géologue de son état, n'est pas qu'un savant doublé d'un aventurier. C'est un esprit exalté et curieux qui vit sa marche folle à la manière d'une initiation. Alors je vais vous lire à partir de la page 233. Je descendis chez un marchand russe, où je reçus aussitôt la visite de mes compagnons d'Ouli Assoutaï. Ils m'accueillirent avec joie, après avoir eu tant d'inquiétudes sur l'issue de mon expédition à Zaïn Chabi et à Vankouré. Je pris un bain, fis un brin de toilette et sortis avec eux. Nous entrâmes au bazar. Il y avait foule. Une bigarrure d'acheteurs et de marchands qui criaient à tue-tête. Parmi les amoncellements chatoyants d'étoffes chinoises, de perles, de colliers, de bracelets et de boucles d'oreilles, tout avait un air de fête. Les uns tâtaient des moutons vivants pour savoir s'ils étaient assez gras. Des bouchers taillaient de grands morceaux de moutons dans les carcasses suspendues à leur étal. Partout, les fils de la plaine plaisantaient et riaient. Les femmes mongoles, avec leurs hautes coiffures surmontées de lourds bonnets d'argent, plats comme des soucoupes, admiraient les rubans de soie multicolores et les longs colliers de corail. Un grand mongol, à l'aspect imposant, examinait un troupeau de splendides chevaux dont il discutait le prix. Un tibétain noir, nerveux, décharné, venu à Ourga pour offrir des prières au Bouddha vivant, ou peut-être était-il porteur d'un message secret de l'autre dieu de Lhasa, était accroupi et marchandait un portrait de Bouddha au lotus, taillé dans l'agate. Ailleurs, une foule de Mongols et de Bouryates s'était rassemblée autour d'un marchand chinois qui vendait des tabatières finement peintes. En verre, en cristal, en porcelaine, en améthyste, en jade, en agate et en néphrite. L'une d'elles, en néphrite verte, veinée de brun, portait une fine sculpture représentant un dragon enroulé autour d'un groupe de jeunes filles. Le marchand en demandait 19 bœufs. Le rouge des lévites et des petites casquettes brodées d'or. Des bouriaques se mêlaient au noir des manteaux tartares et des petites toques de velours qu'ils portent plantées sur le sommet du crâne. La foule des lamas fournissait l'arrière-plan de cette tapisserie camarée avec leurs robes jaunes et rouges, leurs capes négligemment jetées sur les épaules et leurs coiffures variées. Champignons jaunes, bonnet phrygien rouge ou casque des anciens Grecs. Il se mêlait à la multitude, causant avec sérénité, égrenant leur rosaire, disant la bonne aventure, cherchant surtout de riches Mongols à soigner ou à exploiter, en leur prodiguant des révélations, prédictions et autres mystères. L'espionnage religieux et politique se pratiquait à grande échelle. Des Mongols arrivant de Mongolie intérieure étaient cernés en permanence par un réseau invisible mais dense de vigilants lamas. Sur les bâtiments flottaient des drapeaux russes, chinois et mongols. Une petite boutique portait même la bannière étoilée. Les tentes arboraient des rubans, des carrés. Les carrés, les cercles, les triangles, des princes et des particuliers atteints de la petite vérole ou de la lèpre, et qui en mouraient. Tout se mêlait en une masse éclatante sous le brillant soleil. Par moments, on apercevait les soldats du baron Ungern qui se pressaient en uniforme bleu. Les Mongols et des Tibétains en habits rouges, avec des épaulettes jaunes, portant la svastika de Genghis Khan et les initiales du Bouddha vivant. Des soldats chinois apparemment à un détachement de l'armée mongole. Des soldats chinois appartenant à un détachement de l'armée mongole. Après la défaite de l'armée chinoise, 2000 de ces braves avaient juré fidélité au Bouddha vivant et l'avaient imploré de les enrôler dans ses légions. On les accepta et ils constituèrent deux régiments. Ils portaient à la casquette et aux pattes d'épaule des dragons chinois argentés. Comme nous traversions le marché, surgissant à l'angle d'une rue, dans un grand bruit de sirènes, apparut une grande automobile. À l'intérieur se trouvait le baron Ungern von Steinberg, vêtu de sa tunique mongole en soie jaune, avec une ceinture bleue. La voiture allait très vite, mais il eut le temps de me reconnaître, fit arrêter et descendit pour m'inviter à l'accompagner jusqu'à sa yourta. Sa tente était très simplement arrangée. Elle était dressée dans la cour d'un magasin chinois. Il avait installé son quartier général dans deux autres yourtas voisines. Ses serviteurs, quant à eux, logés dans l'une des maisons chinoises. Quand je lui rappelai sa promesse de m'aider à atteindre un port sur le Pacifique, le général me regarda avec ses yeux brillants et me répondit en français. Mon œuvre ici touche à sa fin. Dans 9 jours, je commence la guerre contre les bolcheviks et j'entre en Transbaïkalie. Je vous prie de bien vouloir rester ici jusqu'à cette date. Il y a des années que je vis en dehors de toute société civilisée. Je suis seule avec mes pensées et je voudrais vous les faire connaître. Nous causerons et vous verrez que je ne suis pas le baron fou de sang dont parlent mes amis. Ni le sévère grand-père que craignent mes soldats et mes officiers. Mais un homme, tout simplement, qui a beaucoup cherché et plus encore souffert. Le baron resta silencieux quelques minutes, puis continua. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'il convient de faire pour votre groupe. J'arrangerai tout, mais je vous en prie, restez encore avec moi pendant ces 9 jours. Que pouvais-je faire? J'acceptai. Le baron me serra la main et commanda le thé. Parlez-moi de vous et de votre voyage, me dit-il. Je lui racontai tout ce qui me parut susceptible de l'intéresser, et il suivit mon récit avec une attention extrême. Maintenant, c'est à moi de vous parler de ma vie, et vous saurez qui je suis. Mon nom est entouré de tant de haine et de terreur que nul ne peut distinguer le vrai du faux, l'histoire de la légende. Un jour, vous écrirez un livre, vous vous rappellerez votre passage en Mongolie et votre séjour dans la yourta du général sanguinaire. Il ferma les yeux et commença son récit, sans cesser de fumer, précipitant ses phrases nerveusement, sans les achever, comme si on ne lui en laissait pas le temps. Alors là, le baron, il parle de sa lignée, sa famille, tout ça. Après ça, il se tut et but d'affilée plusieurs tasses de thé. Un thé très fort, aussi noir que du café. La dépravation révolutionnaire. Qui donc y songe, en dehors du philosophe français Bergson et du savant Tashi Lama au Tibet. Le petit-fils du corsaire, le lettré qui citait pêle-mêle des théories et des ouvrages scientifiques, des noms de savants et d'écrivains, la Bible, les livres bouddhiques, l'homme qui s'exprimait indifféremment en français, en allemand, en russe ou en anglais, continua. Dans les livres bouddhiques, comme dans les vieux livres chrétiens, on lit de graves prophéties relatives à l'époque où devra commencer la guerre entre les bons et les mauvais esprits. Alors surviendra la malédiction inconnue qui, s'abattant sur le monde et balayant la civilisation, étouffera toute moralité et détruira les peuples. Son arme est la révolution. Dans toute révolution, l'intelligence créatrice qui se fonde sur l'expérience du passé est remplacée par la force jeune et brutale du destructeur. Celui-ci donnera la prééminence aux passions viles et aux bas instincts. L'homme s'éloignera du divin et du spirituel. La Grande Guerre a prouvé que l'humanité doit s'élever vers un idéal toujours plus haut, mais elle a manqué l'accomplissement de l'antique malédiction que pressentir. Ah, mais elle a marqué. La Grande Guerre a prouvé que l'humanité doit s'élever vers un idéal toujours plus haut, mais elle a marqué l'accomplissement de l'antique malédiction que pressentir le Christ, l'apôtre Saint Jean, Bouddha, les premiers martyrs chrétiens, Dante, Léonard de Vinci, Goethe, Dostoïevski. La malédiction a fait reculer le progrès, nous a barré la route vers le divin. La révolution est une maladie contagieuse. L'Europe, en traitant avec Moscou, s'est trompée elle-même. Elle a trompé les autres parties du monde. Le grand esprit a mis au seuil de notre vie le karma, qui ne reconnaît ni la colère ni le pardon. Il règle nos comptes. Ce qui nous attend, c'est la famine, la destruction, la mort de la civilisation, de la gloire, de l'honneur, la mort des nations, la mort des peuples. Je vois déjà cette horreur, cette sombre et folle destruction de l'humanité. La porte de la yourta s'ouvrit brusquement. Claquant les talons, raidi, au garde-à-vous, un officier saluait. « Pourquoi entrez-vous sans permission ?» s'écria le général en colère. « Excellence, notre petit poste de frontière a capturé une patrouille ennemie et l'a amenée ici. » Le baron se leva. Ses yeux étincelaient et son visage était contracté de spasmes. « Amenez-les en face de Mayurta, » commanda-t-il. Tout était oublié. Le discours inspiré, comme la voix pénétrante. Tout avait disparu sous le commandement bref du chef implacable. Le baron mit sa casquette, saisit le tachour de bambou qu'il portait autour, toujours à la main, et sortit vivement. Je le suivis. En face de la yourta se tenaient six soldats rouges, entourés par des cosaques. Le baron s'arrêta, les regarda fixement, quelques minutes. Sur son visage, on pouvait suivre le jeu violent de ses pensées. Puis il détourna les yeux, s'assit sur le seuil de la maison chinoise et médita un long moment. Enfin, il se leva, se dirigea vers les prisonniers et d'un mouvement plein de décision, toucha de son bambou chaque prisonnier à l'épaule. « Toi, à gauche. Toi, à droite. » Il avait partagé le groupe, quatre hommes à droite et deux à gauche. « Fouillez ces deux-là, ce doit être des commissaires, » ordonna-t-il. Puis, se tournant vers les quatre autres, il demanda « Vous êtes sans doute cultivateurs et vous avez été mobilisés par les bolcheviks ?»« Oui, Excellence, » s'écrièrent les soldats effrayés. « Allez vous présenter au commandant et dites-lui que j'ai donné l'ordre de vous enrôler dans mes troupes. » Sur les deux autres, on trouva des passeports de commissaire du service politique communiste. Le général fronça les sourcils et, lentement, prononça la sentence. « Tuez-les à coups de bâton. » Il se détourna d'eux et rentra dans la yourta. Mais notre conversation après cet incident était devenue un peu embarrassée et je pris congé du général.
the machine rages on, or rage against the machine. That band is anti-family, and it's pro-terrorist.
À propos de ce que je pourrais nommer dualité, de ce qui entraîne cette violence que je sais présente dans mon comportement et dans le comportement de beaucoup d'autres. La définition de la dualité du dictionnaire Larousse dit « caractère de ce qui est double, coexistence de deux principes différents ». Je suis duel aussi dans ma position face aux autres, quand je juge qu'ils se trompent. Je fais exprès d'extrapoler dans une position opposée à la leur, ou d'extrapoler leur position jusqu'à la caricature. C'est comme une pulsion. Cette façon d'être peut se révéler très inconfortable. Je ferais peut-être mieux de vivre en ermite, de manger des orties, de parler aux fourmis, tout ça. Ce comportement est une forme de violence envers les autres et envers moi-même. Mais ma révolte est telle que je sais que je ne peux pas me forcer à être autrement. J'essaie juste d'accepter cette révolte. J'essaie de m'exprimer calmement. C'est ce que je fais en ce moment. Je peux dire à ceux que j'ai blessés que j'en suis désolée, que j'ai fait ce que j'ai pu, et que s'ils ne peuvent pas me pardonner, peut-être arriveront-ils à accepter que je partage encore un peu de leur air. Ma révolte est si forte que je me pose souvent la question : quel est le sens de ma présence ici, sur Terre ? Je pense que si j'ai eu d'autres vies sur Terre, elles se sont certainement finies très vite à cause de ma révolte. L'entre-deux-monde. L'entre-deux-monde. Dans la cuisine de l'entre-deux-monde, il y a des abat-jours et des ampoules électriques, un morceau de miroir cassé et un frigo qui frissonne, un annuaire téléphonique et une vieille radio éteinte. Une bougie brûle, posée sur la table, au milieu. Près d'un gros radiateur, il y a un pantin de chiffon pendu par le bras à la fonte rugueuse. Il mesure 60 cm de haut. Il a la bouche cousue. Ses yeux sont fixés sur la pendule accrochée au mur d'en face. Son tic-tac résonne, comme si cette cuisine avait un cœur d'automate. C'est le matin. B et sa fille sont attablés. Il est bientôt l'heure d'aller à l'école. B pense. Ce sur quoi je travaille en ce moment, m'éveiller à ne plus vouloir revenir sous cette forme de chair, d'os et de sang. Je travaille à ne plus désirer revenir habiter ce corps, habiter ces veines, habiter ce sang. Comme si la dualité pouvait et devait juste et seulement s'exprimer dans ce monde.
And just a gigolo,
gigolo.
Everywhere I go,
gigolo.
People
gigolo.
Know the power
gigolo.
Of the blade.
Gigolo. Gigolo.
Paid for every dance,
gigolo.
Selling his romance.
Gigolo.
Oh,
gigolo.
Oh, what a sin.
Gigolo. Gigolo. Gigolo.
And there will come a day and youth will pass away, and what will they say about me? When the end comes, I know they'll say, what's the people who are left for? And without me, I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. I'm so sad and lonely. Hey. Sad, lonely, sad, lonely. Won't some sweet mama come take a chance with me, cause I ain't so bad. And I'll sing her. Sweet love song. She will only be. Ba 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 ba. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me.
J'ai ouvert le livre « Dialogue avec l'ange » avec l'aide de la Providence, car ma demande m'a semblé claire. Voilà ce que le livre m'a dit. L'ange parle. Je prends la parole. Je continue à parler de la mesure. La tâche de l'animal est centrée sur lui-même. Il se réjouit de ce qui est à lui, son air, sa nourriture, son petit. S'il va bien, il se réjouit de tout. Il vit dans un cercle qui s'appelle lui-même. Ce qui est à l'intérieur du cercle, il l'absorbe, car il centre tout sur lui-même, créature. C'est juste le contraire chez l'homme. Sa mesure et votre joie sont ce que vous rayonnez au-delà du cercle. Et c'est incommensurable. L'animal a faim, il se rassasie, et cela suffit. L'homme est rempli, il rayonne, et cela ne suffit jamais. Donc, sa joie n'a pas de mesure. c'est le secret de la vie éternelle. Enfance gâtée. Jouer tout fait, savoir tout fait, nourriture toute faite, expérience toute faite. C'est cela que l'enfant reçoit. Il en a la nausée, sa soif de connaissance, son désir de créer. Tout ce qui rend l'homme, tout ce qui le rend homme, dépérit. Son désir d'expérimenter, trop de conseils le tue. Tout cela est lâcheté et manque de foi. Lorsque l'enfant devient adulte, tout est mort en lui. Voilà ce que le livre Dialogue avec l'ange a dit. Après, j'ai écrit un autre texte sur l'alchimie et des accords. Je dors avec ma fenêtre ouverte. Si, comme le chien gris de l'antimoine, nous avons besoin du sel de rosée pour libérer notre soufre, alors il me faudrait, comme le vagabond, dormir sous les étoiles et ainsi recueillir le sel de rosée pour qu'enfin ma souffrance et mon mal s'évaporent. Si, comme je le crois, je n'ai jamais dépassé l'âge de 13 ans dans mes millions d'autres vies, parce que tous ces désaccords qui sont monnaie courante dans ce monde m'affligent tellement.
Some glad morning when this life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. Whoa. Joy shall never